problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez RMC.
On a Baptiste avec nous au 32-16 qui est supporter lyonnais. Baptiste, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Baptiste.
Bon, ben voilà, petite Lyon a vengé le match aller, non?
Bah ouais, puis même, je trouve que Bruno Guimaraes, justement, vous en parlez, je le trouve fantastique, quoi. Alors certes, c'est que 3 matchs, toutes compétitions confondues, mais je trouve que ce qu'il fait avec Aouar, ils n'ont pas besoin de se parler, ils se comprennent tout de suite. Et l'intégration de Guimaraes est assez incroyable parce que, on va pas se mentir, personne n'aurait cru qu'il allait s'intégrer aussi vite.
D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que on en parlait tout à l'heure avec Pierre pendant le match. Donc, tu as des dizaines de joueurs à chaque fois, quand ils sont pas bons tout de suite, on dit ouais, mais bon, faut qu'ils s'adaptent. Faut 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Puis là, tu as un mec en 15 jours, il est fort. Donc, ouais. Maintenant, le prochain qui va se pointer en disant ouais, mais c'est le temps d'adaptation, on va dire t'es gentil, toi.
Non, mais les gars peuvent tous être différents. Il n'est pas impossible qu'il n'ait pas un contre-coup à un moment parce qu'il arrive, il n'a pas fait la préparation avec l'équipe, il peut être fatigué parce que sa saison n'a pas eu beaucoup de temps mort.
Ça dépend aussi de la dynamique collective au moment voilà. Où tu arrives et où tu rentres dans l'équipe sur le terrain. Il y a aussi ça. C'est beaucoup plus facile, peut-être, de rentrer dans des matchs comme ça là finalement que dans une période il y a encore 2-3 mois lyonnaise où tu pouvais
rien qui tournait.
Ouais, tu pouvais faire rentrer qui tu voulais, ça aurait été difficile je pense.
Baptiste, autre chose?
Non, c'est tout.
Il est content.
Bah très bien. Oui. Baptiste est content.
Bah, oui, excité hein. par la belle période qui s'ouvre pour l'OL.
Toi tu penses d'abord à la Juve et pas à Paris cette semaine?
Bah moi je préfère penser contre la Juve que Paris.
D'accord. Toi tu vises l'exploit contre la Juve.
Bah, s'ils font le même match la Juve et que Lyon fasse le même match, oui, on peut y croire. Même si ça va être
le problème. Le problème en fait, c'est que la Juve ne fera pas le même match. Et que donc, s'ils ne font pas le même match et que Lyon est taquet comme l'autre jour, mine de rien, ça s'annonce chaud parce que la dernière demi-heure, juste quand ils ont joué un petit peu mieux, Lyon a eu beaucoup de mal. Donc, va vraiment falloir que ce soit très, très costaud et qu'il y ait des faits de jeu favorables et que ce soit vraiment une belle soirée, quoi.
Mais bon, après, c'est déjà pas mal. On n'a pas pris de but contre la Juve, donc.
Oui. Pour l'instant, c'est même plus que pas mal. Pour l'instant,
merci Baptiste, en tout cas.
Salut. De rien.
Bonne soirée.
Ciao Baptiste.
Tout de même constatation, il n'y a pas fait, il y a pas de turnover chez Garcia entre la Juve et là. Bon,
est-ce possible contre le PSG.
Voilà, c'est ça. Encore ça. Est-ce qu'il y a une sorte d'équipe type quoi en fait.
Je suis pas sûr parce qu'il va avoir envie de faire contre le PSG le même coup qu'il a fait contre la Juve. J'en suis persuadé. Enfin, c'est tentant et si je suis lui, j'ai peut-être la même envie quoi.
Il enchaîne 3 fois avec une grosse équipe.
En sachant qu'après il a Lille. Hein. Donc c'est pas non plus un match.
Il y a rien de. C'est pour ça que je parlais du mois lyonnais.
C'est le match de dimanche soir.
Ouais.
Donc, c'est ça.
Et c'est un gros match. Hein.
Ouais, tu joues le 4 mars, le 8 mars, le 13 mars, le 17 mars, le 21 mars. Et après, le dernier match contre Paris dont je parlais, c'est un peu plus tard parce qu'il y a la trêve internationale, c'est le 4 avril. Mais donc là, tu enchaînes que des matchs.
Non, mais il a trouvé un truc, là, Garcia, sans doute.
Ouais, alors après quand c'est leur capacité truc, physique à enchaîner.
Il a trouvé un truc, là, mais, je sais pas, tu vois, une sauce qui fonctionne avec cette équipe-là.
Bah, il a trouvé une sauce qu'il a surtout vu l'arrivée d'un joueur qui lui a fait un bien fou dans le milieu. Alors,
il pourra changer un Carl Toko Ekambi avec un Terrier. Il pourra peut-être changer au milieu de terrain. C'est là où ça paraît le plus difficile, finalement. Tuzar, Guimaraes, Aouar, là, ça marche bien. Donc, tu te demandes si tu peux changer
là,
ça.
Voilà,
t'as le petit Cacré qui a pas démérité quand il a joué, donc est-ce que tu peux pas sur un match le faire
enchaîner les matchs. Je te dis, là, la période indéniable elle est belle.
Ton magazine de la confiance.
Le truc central, c'est quand même le milieu de terrain, parce que bon, Guimaraes, voilà, Tuzar, il est bon contre la Juve. Là, ce soir, il fait aussi un bon match.
Ouais, c'est un bon match ce soir.
Aouar,
les mecs sont un peu transformés, transfigurés par l'arrivée de l'autre. Bon, donc, tout le monde est motivé.
C'est
ce milieu,
en fait, c'est un peu le truc central, quoi. Le rendement de ce milieu. Et comme par hasard, quand Guimaraes a plongé un peu en deuxième mi-temps, c'est là qu'ils ont commencé à galérer.
Mais même Aouar en seconde période est pas aussi bon qu'en première. Mais moi j'en reviens
honnêtement. Ils ont fait tellement d'efforts mercredi soir.
Il y a ça et j'en reviens vraiment
c'est
pour à cette
ça que
notion.
Il va falloir le surveiller parce que l'enchaînement va pas être simple.
Moi ce qui me dérange terriblement dans le match lyonnais aujourd'hui, c'est la seconde période avec la reprise de la seconde période où Marcelo, alors j'ai Marcelo parce que c'est un peu lui le patron derrière avec Denayer, mais tout de suite réattaque cette période avec 20 mètres plus bas et ça pour les milieux c'est terrible parce que déjà t'es fatigué par le match de mercredi, par la bonne première période où t'as l'air de rien cavalé aussi un petit peu pour proposer des solutions, etc.
La première période elle est énorme,
ils mettent de l'intensité, donc tu les déplumes quand même un petit peu.
Une position qui est outrancière, Saint-Etienne n'existe pas,
le meilleur en première période depuis 14 saisons,
il les déglingue complètement.
La stat est dingue, on l'a vu sur Canal, 78% de possession.
Ça aurait été très bien. Alors je sais pas pourquoi, peut-être que derrière ils avaient plus les cannes, je sais pas, mais ça aurait été très bien qu'ils fassent même une moitié de seconde période aussi haut qu'en première. Je suis persuadé que Lyon aurait fait la différence plus tôt et ce serait rendu la fin de match beaucoup plus facile.
Nico est là, supporter lyonnais. Salut Nico.
Salut Hector.
Salut Nico.
Ça va ?
Ah bah moi je suis heureux. On a
c'est quand même une belle semaine.
On a eu une traversée du désert pendant 6 mois, et là, en une semaine, on a deux mi-temps, certes, sur 4, mais de très, très, très haut niveau. Et j'avais peur, après mercredi, qu'on ne se serve pas de cette performance contre la Juve pour briller en championnat et dans le reste des coupes qu'il faut jouer. Parce que ces matchs doivent servir comme fondation au collectif, parce que jusque-là, je ne voyais rien. Il ne se passait rien sur des matchs. On n'arrivait même pas à cadrer deux frappes dans un match depuis, jusqu'à la semaine dernière. Et là, d'un seul coup, j'ai l'impression que la saison vient de commencer. Et effectivement, on peut tout gagner comme tout perdre. Mais en tout cas, on revit sur un match. Moi, en tout cas, la première mi-temps, j'étais sur un nuage. J'avais l'impression qu'il pouvait rien nous arriver. Et puis, effectivement, voilà, le petit Guimaraes, il fait beaucoup de bien. Et j'ai l'impression qu'il est là depuis le début, quoi. Donc ça, c'est vraiment formidable.
Donc, t'as eu ta semaine de plaisir de la saison, en fait.
En dépit de la deuxième mi-temps, qui était quand même bizarre ce soir, parce que l'arbitre était un peu particulier, je me suis posé des questions sur le penalty. Est-ce qu'on allait vraiment valider le deuxième but? Parce qu'on nous a tellement repoussé cette échéance que je me suis posé des questions, surtout sur le carton jaune de Dembélé, sur une simulation qu'il n'y avait pas, alors que finalement, il siffle un hors-jeu, mais il laisse le carton. Enfin, c'était quand même un peu chaud.
Donc, est-ce
ça,
qu'il y a
été remis sur ce match-là, ça aurait été bouillant.
Est-ce qu'il y a autant d'interruptions et aussi longues ailleurs? J'ai l'impression que tous les dimanches, on a des interruptions. En tout cas, de l'autre côté, là, le Real Barça, pas une fois on a entendu parler de la VAR.
Ouais.
Ouais. Je comprends pas. Ils sont sans arrêt en train de tout vérifier. Je croyais que ça devait être que les erreurs manifestes. On vérifie tout.
Le but de Touzard est refusé à cause de la nouvelle règle. Hein. Le bras collé.
Dès qu'il y a un but, ça
c'est là. Il y a l'histoire du bras, oui. Alors, nouvelle règle. Mais nouvelle règle, on a le droit de dire que nouvelle règle, c'est stupide. Parce que la main, elle est complètement collée. À part si les manchots, ça lui tape le torse et elle va pareil dedans.
C'est ce que j'ai dit à Gilbert pendant le match. J'ai dit,
il y a un truc, c'est qu'en fait, il arrête la VAR pour checker un hors-jeu. Et finalement, ça check autre chose.
Mais ouais,
ouais, bah oui, oui.
Mais ouais, non, mais c'est long, casse le match. Je sais pas s'il y a autant d'interruptions.
Ça nous a permis, grâce à Joël Quignoux pendant le match, de faire un petit update sur une règle quand même importante. Ce que fait Debuchy quand Lopez dégage, avant c'était autorisé. Maintenant, ça ne l'est plus. Parce que Debuchy, finalement, il touche le ballon, il ne touche pas Lopez. Il joue le truc en roublard, là.
Enfin, t'as plus le droit, ça fait un moment, il nous a dit.
Voilà.
T'as plus le droit de faire ça.
Je savais pas que ça avait été modifié.
Oh bon ?
Bah non.
Bon, même moi, je savais, pourtant, je fais pas trop gaffe à ces machins-là.
Oui, non, moi, j'avoue que j'étais comme Gilbert et je pensais que si tu touchais juste le ballon, une fois que le ballon était vraiment lâché des mains, je pensais que tu
Je me souviens des fameux buts en Angleterre où les mecs ils mettaient une tête dans le ballon qu'ils ont la main du gardien pour les marquer, tu vois.
Ça, c'est les années 70.
Ouais, ça y est, c'était beau. Plus longtemps, c'était marrant, ça. Ouais. Les mecs traînaient derrière le gardien.
Nico, un truc à rajouter?
Ouais, je trouvais ça aussi bizarre. Je pense que Saint-Etienne s'est relancé dans le match suite à encore une erreur d'arbitrage d'ailleurs. À un moment, il y a une main d'un joueur de Saint-Etienne qui est remise en fait sur un de ses joueurs et ça donne une.
De Blanga sur Rodney, ouais.
Alors que en fait tout le monde avait arrêté de jouer parce qu'il y avait vraiment une main. Et
il n'y a pas d'erreur d'arbitrage possible, Nico. Il y a la VAR maintenant, la justice est là.
Non mais tu sais ce qui se passe, Nico. Si jamais Johnny, ça n'a pas été le cas, frappe un peu mieux et marque, tu revois l'action et la VAR aurait dit main de Blanga sur la remise et il n'y aurait pas eu but.
Ouais, je pense que c'est les arnanciers d'avoir une occasion franche quand même. Je crois que c'est la première d'une série. C'était sur cette main là, donc ça les a peut-être boostés.
J'allais
poser une petite question à Nico pour voir si je suis pas fou, mais t'as pas l'impression aussi que ta défense a trop vite reculé en seconde période pour offrir justement ce genre d'occasion à Saint-Etienne?
Je pense qu'ils se sont trop vite adaptés au changement de milieu de Saint-Étienne et je crois que c'était sur le banc de Lyon, ils ont dit qu'ils allaient s'adapter à ce changement tactique, donc ils ne se sont pas adaptés du tout. Donc effectivement, on a beaucoup reculé. Après, c'est vrai qu'hormis cette occasion de la main où on dévie et où Lopez la sort, je trouve quand même on a bien tenu et ça fait plaisir de tenir des 1-0 parce que Lyon n'a jamais été spécialiste pour tenir des scores. Donc c'est quand même rassurant d'y arriver deux fois de suite. On va prendre le positif.
Merci Nico, salut.
Ciao Nico.
Bonne soirée.
Bonne soirée. Ça sent la dominose pour Saint-Etienne, nous dit Jules.
Alors ça ne sent pas complètement parce que derrière ça ne bouge pas.
Attention parce
et en
que
plus, ça ne s'appelle plus la dominose.
Exactement. L'année prochaine, ça ne s'appellera plus la dominose.
Et c'est comment
je crois que ça s'appellera la BKT.
Ah exactement. C'est la BKT, c'est les roues de camion.
Ah ouais.
Voilà. T'as pas de camion toi?
Non.
Ah mais t'auras pas besoin de BKT.
Bah, en même temps, quitter la Conforama.
Un tracteur à la campagne?
Non.
Non plus, mais t'auras pas non plus. Alors.
Quitter la Conforama pour aller en BKT, dans...
Je sais pas, je vois pas trop si on y gagne ou pas, je maîtrise pas le BKT.
Thibaut est là, il est supporter des Verts. Salut Thibaut.
Allô.
Ça va Thibaut?
Ouais, salut, ça va Thibaut. Et vous?
Bah ça va, enfin ça va.
Toi ça doit pas aller, mais nous ça va.
Ouais, bon, bah ça pourrait aller mieux, hein, mais bon, on a perdu encore. Hein.
Oui, bah oui, on a vu.
Bon constat.
Allô.
Ouais, bah là, non, mais attends, tu retiens quoi? Parce que mine de rien, en deuxième mi-temps, il y a eu une mini-réaction.
Ça fait chier, parce que bon, c'est toujours pareil, quoi.
C'est-à-dire?
C'est toujours pareil.
Il n'y a rien. Depuis qu'il y a Claude Puel, il n'y a rien. C'est zéro.
Mais c'est la faute de Claude Puel ou des joueurs?
Bah, je sais pas c'est qui la faute, mais bon, au bout d'un moment, faut jouer, quoi. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Oh, on est où? On est à Saint-Etienne, on n'est pas à Lyon, nous.
À Lyon, ça joue ce soir.
Je retiendrai cette analyse de Thibaut. Ici, on est à Saint-Etienne, on n'est pas Lyon. Bon, je sais pas trop ce que ça voulait dire. Enfin, on sentait un Thibaut énervé.
Non, mais de toute façon, personne ne sait réellement de la faute à qui c'est à Saint-Etienne.
Bah, si, la faute, excuse-moi. Oui,
voilà, c'est vrai que l'analyse de Thibaut, on n'a pas pris.
Moi, la faute, je la mets sur les joueurs. Puel, il fait tout ce qu'il peut, il a tenté les trucs.
Non, mais la faute initiale.
Il a des joueurs aujourd'hui qui sont.
C'est même pas le problème,
ils sont cramés, ils sont pas bons.
La faute initiale, tu termines une saison, t'es quatrième. La faute initiale, c'est tu nommes pas le bon entraîneur, tu foires toute ta préparation.
Donc là, tu parles de printemps.
Tu fais des mauvais choix de joueurs. Tu les mets dans le confort, ça devient les boss, ils font ce qu'ils veulent.
Tu sais quoi, Daniel, c'est même
ça
pas
ça t'oblige à changer d'entraîneur en cours de route, ça t'oblige à changer ton directeur sportif, recruteur en chef en cours de route. Les présidents ont disparu complètement. Bref, ce sont des choses qu'on a répétées déjà mille fois, on devrait même pas s'attarder dessus.
Top Claude
Saint-Etienne aujourd'hui, il y a pas grand-chose malheureusement à en dire de neuf.
On va écouter.
On sait tous ce qui se passe.
Le début de sa conférence de presse.
On était en bloc, c'était bien. Mais parce qu'il faut le faire devant cette équipe. Après, sur les quelques ballons qu'on a récupérés, on n'a pas été propre, on n'a pas manqué de maîtrise. On les a trop vite perdus. Et également, on n'a pas été très bon pour récupérer les ballons. Et pourtant, on était assez dense sur cette partie du terrain. Mais dans les duels, on n'est pas arrivé à être assez agressif, assez performant pour avoir des ballons. Donc, il fallait montrer notre visage en deuxième mi-temps. Je pense que c'est ce qu'on a fait. On s'est lâché, on est allé au pressing très haut, on a beaucoup couru, mais est-ce qu'on aurait pu le faire sur 90 minutes? Je ne sais pas, mais en tout cas, au moins, on a montré qu'on pouvait être acteur et qu'on pouvait revenir dans le match. Quelle que soit l'équipe en face, même si c'était Lyon.
Voilà pour la première réaction de Claude Puel. Bon, moi, une nouvelle fois, je défends Puel parce que il a des joueurs qui ont des salaires incroyables, qui sont pas au niveau, qui sont pas exemplaires en dehors du terrain. Il s'est fait lâcher par le mec qui est censé être son leader naturel, en l'occurrence Ruffier.
Oui, non mais je pense
que c'est plus compliqué.
Je veux bien qu'on soit indulgent, mais effectivement, c'est un peu plus compliqué.
Ah, je suis pas indulgent dans les joueurs.
T'es obligé de faire. Attends, si le club continue de dégringoler. Ils ont 2 points d'avance sur le barragiste, on va dire. Donc le barrage, on peut pas complètement l'exclure. Je veux bien exclure la descente parce que t'as 7 points d'avance. Donc on va se mettre d'accord en disant que là ce serait absolument dinguissime de les voir descendre direct. Mais le barrage, il est là. Si jamais tu joues le barrage, moi je veux bien qu'on répète à l'envi, ouais, Puel, il a trouvé une situation, ouais, les joueurs, machin. Bah, à partir du moment où t'arrives, que ce groupe de joueurs, tu l'as, avec les vieux, les jeunes, que c'est le bordel et tout, ton taf, c'est de t'adapter.
Il faut qu'ils s'adaptent pendant au moins jusqu'à la fin de la saison.
Jusqu'à la fin de la saison, tu composes avec tes peignoirs claquettes qui te font chier. Tu te mets pas à dos ruffié, même si tu penses que c'est un mec qui te chie dans les bottes, ce qui est possible. Tu fais ce que tu peux, tu tiens la saison, tu sauves le club.
Il voulait pas se mettre à dos ruffié. C'est Ruffier qui a dit bah moi je joue plus.
Tu composes et à la fin de la saison tu coupes.
C'est pas exactement ça.
Tu composes et à la fin de la saison tu fais tomber qui tu dois faire tomber.
Tu fasses quoi quand le mec publiquement devant tous les autres lui dit moi je fais pas ton exercice.
Mais parfois t'es obligé de t'asseoir sur ton orgueil.
Parce qu'à un moment donné aussi
la situation du club elle le réclame.
Et parce qu'à un moment donné
tu peux pas jouer la rigidité là.
C'est ce que Timothée aussi nous disait, c'est qu'à un moment donné t'en arrives pas là comme ça d'un seul coup. C'est pas moi j'y crois pas au Ruffier d'un seul coup qui veut pas faire un exercice. C'est qu'il y avait quelque chose de latent qui traînait. C'est une évidence.
Que Ruffier, il s'est entraîné en marge de tout le monde depuis des années et que Pierre lui a dit maintenant c'est fini, tu te mets avec les autres et que l'autre il a pas voulu.
Mais oui, mais sauf que là on revient un peu à ce que Daniel dit, c'est que tu arrives dans un club, attention, tu peux pas tout changer en 10 jours ou même en 2 mois ou même en 3 mois. Surtout dans une situation
quand t'as des baronnies.
Où tout ne va pas parfaitement.
C'était baronnie avec Châteaufort autour.
Et en plus je pense qu'on ne sait pas. On ne sait pas tout.
Tu casses pas les burnes au baron. C'est ce qu'il veut.
J'essaie de parler fou là-dedans.
On parle foot aussi.
Oui. Si, c'est du foot, les statuts de ce genre-là dans les clubs aujourd'hui. Et pour les démonter, il faut du temps, il faut que le mec ait les pleins pouvoirs. Et puis elle a néanmoins.
Ah bah les pleins pouvoirs, il a, je pense.
Hein. Il a quand même ce petit défaut de dire, il l'avait dit à l'époque à Lyon et tout, de vouloir traiter tout le monde de la même façon.
Mais dans un monde idéal, c'est très bien.
Ce raisonnement a une limite.
Ah oui.
La limite, c'est si d'abord les mecs sont méga installés avant que t'arrives, pour désinstaller, c'est pas d'un coup. Si tu le fais d'un coup, c'est conflit. Donc si tu veux gagner la guerre, il faut être un peu diplomate.
Et si tu es dans une dynamique positive ou dans une dynamique aussi, où tout le monde est à deux doigts de
conditions, c'est comment ça va ou ça va pas. Parce que si tu fais le rigide avec les barons qui dans le vestiaire se mettent dans un, les joueurs, les jeunes joueront avec la pression du regard de l'autre. Ça va être le bordel.
Et tu vois,
ça va être
le bordel. Oh là,
ça va se pavaner là.
C'est
le semaine qui peut vous
permettre de. Attention, en direct Jean-Michel dans la zone d'interview.
Ouais, bon, on était sur le fil du rasoir, donc on savait pas du quel côté on allait tomber. On pouvait tomber du mauvais côté. Là, on est en train de réussir. Bon, j'en avais parlé un petit peu avant cette série, avant le match de Metz qui a été le déclic. Bon, on avait dit que voilà, ça pouvait être effectivement assez exceptionnel. Ça va de toute façon l'être parce que on va avoir ce match à la Juventus pour aller peut-être jouer un quart de finale. On aura la finale de la Coupe de la Ligue et puis on va jouer cette demi-finale contre Paris pour une équipe qui a été très décriée. C'est une belle revanche comme ce soir contre Saint-Étienne. Donc voilà, il faut les encourager, il faut leur dire qu'ils ont bien joué et l'écrire surtout parce que c'est la réalité. Et puis bon, ils ont démontré une volonté tant contre la Juve que contre l'AS Saint-Étienne, une volonté incroyable qui permet quand on a du talent d'avoir des résultats.
Lyon avait du mal à enchaîner jusqu'à présent. Là, ils ont répondu présent à deux grands rendez-vous.
Oui, c'est vrai que voilà, bon, il faut. Moi, je rajoute aussi Metz parce que pour ceux qui étaient, c'était un match très difficile. On a vu d'ailleurs que Metz était allé gagner à Amiens, je crois, hier. Et le match était redoutable parce que Metz est une équipe chez elle qui défend très bien, qui est très très agressive. Donc on peut effectivement faire cet enchaînement. Metz 2-0, Juve 1-0, Saint-Étienne 2-0. Donc voilà, il faut surtout pas se désunir, il faut se coucher tôt ce soir, ce que j'ai dit aux joueurs. Enfin, c'est le coach qui leur a dit exactement. Et puis essayer de faire douter cette équipe de Paris qui est invincible et qui voudra sur le match qui va précéder en fait son retour contre Dortmund se donner confiance. À nous de faire comme contre la Juve, de faire un match de grande qualité. Bon, ce qui m'a beaucoup plu ce soir, c'est cette première mi-temps. Je l'ai dit avec beaucoup de vitesse, beaucoup de technique. Et je crois que j'ai rarement vu dans un derby une possession de 78% à la mi-temps. C'est du jamais vu. Mais c'est pas dû à la faiblesse de l'équipe d'en face. C'est dû au fait que les garçons ont développé un football rapide, un football technique et surtout sans redoubler les dribbles avec beaucoup de passes. C'est le meilleur des fortifiants pour se préparer contre Paris et j'espère qu'ils vont rêver à cette première mi-temps toute la nuit avant mercredi.
Il y a un joueur qui vous fait beaucoup de bien, on l'a vu face à la Juve, on l'a vu ce soir en première période, surtout c'est Bruno Guimaraes qui fait des débuts incroyables.
C'était une équipe.
Oui, Bruno.
Jean-Michel Aulas qui ne parle même pas des Bidai, qui nous a quand même dit que Metz était une équipe redoutable.
Non, les Bidai, il en parle quand ça va pas. Quand il n'y a pas les bons résultats. Quand il y a les bons résultats, là d'un coup, le foot l'intéresse un petit peu plus.
Bon, en même temps, il a raison sur la série lyonnaise qui est excellente.
Oui, voilà. Mais quand il dit, il faut le dire, il faut l'écrire. On va juste lui rappeler que quand Lyon joue bien, on le dit. On l'écrit comme pas parce soir. Que nous, on est à l'oral, qu'on fait juste notre métier. Que lui, son métier, c'est pas de raconter n'importe quoi quand ça va pas. Ça n'est pas d'attaquer les journalistes au point de les dénoncer auprès des supérieurs hiérarchiques pour leur causer du tort. Ça, c'est quelque chose qui ne se fait pas. C'est des méthodes de petits dictateurs et certainement pas des choses qui se font dans des pays libres. Et lui, il le fait en permanence. Donc, qu'ils ne nous apprennent rien. On est assez grand pour avoir dit que contre la Juve, ils ont fait un très bon match et que ce soir, ils ont fait un très bon match.
Moi qui ai dit que la voilà. défense...
Et on n'est pas là ni pour leur souhaiter de faire des bons matchs, ni pour leur souhaiter de faire des mauvais matchs. On est là pour regarder leur match,
les situations
et dire... Oui, je le souhaite à tout le monde. Je le souhaite aussi à Saint-Etienne. Je souhaite à tout le monde. De faire des bons matchs et à personne des mauvais. On est là pour dire ce qui se passe. Si on est d'accord, tant mieux. Si on n'est pas d'accord, tant pis. Si on veut nous le dire, si on a l'occasion de nous le dire, on peut nous le dire. Mais voilà. Mais en aucun cas, on fait ce qu'il fait, à savoir de la petite délation et en plus, de la diffamation en inventant des histoires.
Valentin! Et parmi nous, il est supporter des Verts, hein, puisqu'on était en train de débattre de Saint-Etienne avant que Jean-Michel Aulas arrive dans la zone d'interview à Lyon. Valentin, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bon, quel bilan tu fais, toi, là, de la situation à Saint-Etienne après ce match?
Alors déjà, je vais essayer de relever le niveau après la brillante intervention du supporter de Saint-Etienne avant moi. Ça va peut-être pas être très compliqué.
Ouais, sur le fond, on n'a pas appris grand-chose, ouais, effectivement.
Non. Après, moi, je comprends pas la colère des supporters, de certains supporters stéphanois envers Claude Puel.
Bah, il a dit, je sais pas, c'est qui la faute. Moi, je...
Oui, mais je comprends pas que les mecs tapent sur Claude Puel. Donc, c'était précisément le genre d'homme dont on a besoin à Saint-Etienne. Puisqu'il est là pour amener du professionnalisme au club et que tout le monde qui s'intéresse au foot et au club de Saint-Etienne se rende compte qu'il n'y en a pas, ou très peu en tout cas. Donc il faut m'expliquer
Est-ce qu'il ne fallait pas le faire par parcimonie ou en tout cas un peu plus avec des doses un peu plus homéopathiques que de façon radicale là, dans une situation où t'as quand même un peu chaud aux fesses maintenant, quoi.
La situation, elle est devenue radicale parce que je pense que Claude Puel ne savait pas à quel point la situation était délabrée. Je pense pas que Claude Puel était venu pour faire d'une équipe de niveau de Ligue 2 une équipe de niveau de Ligue 1 pour jouer l'Europe. Parce que ce que les gens comprennent pas à chaque fois que Saint-Etienne commence un match, c'est qu'avec tous les blessés qu'on a et le manque de professionnalisme global, on a une équipe qui a plus ou moins un niveau de Ligue 2. Quand on prend en une mi-temps 3-0 contre Brest...
Non, rassure-toi, la Ligue 2, c'est vraiment mauvais.
Bah, j'ai pas l'impression d'avoir vu des matchs qui étaient pas mauvais, moi. Les matchs de Saint-Etienne sont mauvais parce que je pense que le niveau est limite pour la Ligue 1 et que le Puel n'a pas signé pour faire une équipe de Ligue 1, une équipe de Ligue 1. Donc je pense que cette année, il faut faire le beau rond. On va passer une fin de saison merdique. On va se maintenir. Et Puel va faire ce pour quoi il a été embauché et monter une équipe d'aplomb.
Bon, bah, espérons qu'on lui en laisse le temps aussi. Parce que tu sais comment ça marche dans le foot, des fois.
Bah, alors là, si Puel ouais. n'est pas reconduit l'année prochaine, c'est qu'on est, ouais, c'est qu'on a vraiment rien compris au problème de ce club, quoi.
Oh, tu sais, le foot, des fois, on voit des ouais. trucs. Bah bon, je le souhaite aussi.
J'espère que vous vous trompez en
parce que t'as remarqué que les deux présidents de Saint-Etienne, autant Jean-Michel Aulas, on l'entend régulièrement, autant tes deux présidents là, ils ont disparu de la circulation.
C'est un peu plus mal, peut-être qu'il y a eu l'ESRN et que. Merde, ouais, ça donne un peu cette impression. Mais j'espère que du coup, il va prendre leur place l'année prochaine et qu'il va faire le boulot, quoi. Parce que le poste qu'il a, c'est manager général, mais il faut qu'il le fasse, quoi, de fond en comble. Moi, j'aime le ménage qu'il est en train de faire en ce moment à Saint-Etienne, de faire redescendre tout le monde de son petit nuage, de son petit confort. De l'extérieur, ça donne l'impression que Saint-Etienne, c'est un club cool. c'est un club sympa, les mecs qui viennent à l'entraînement, ils rigolent bien, t'épouses, mais on n'est pas là pour rigoler, quoi. C'est un club de foot professionnel.
Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, on va voir.
Moi, je pense que Claude Puel est précisément le genre d'homme qu'il nous faut à Saint-Etienne.
Bon, j'envisage pas que Saint-Etienne descende. Je l'ai dit plusieurs fois.
Moi non plus. Il suffit pas d'envisager un cataclysme absolu.
Ils sont qu'à deux points du barrage.
Après le barrage,
il peut tout se passer dans le barrage.
Ouais. Il y a certains twittos là qui le disent, et le barrage contre Clermont, vous le sentez venir?
Tu sais que Clermont est une équipe qui joue très bien au ballon. Très très bien. Les matchs de Clermont cette année sont très agréables à regarder.
Avec sa star, Grbić.
Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est un vrai collectif surtout.
Ouais. Valentin, merci en tout cas.
De rien.
Et bonne soirée. Tiens, Rudy Garcia vient d'arriver en conférence de presse. On va écouter le début de son intervention.
Il a marqué sur nos temps forts. Voilà, parce que c'est un match qu'on doit plier avant le temps additionnel de la deuxième période.
Allez, encore une question à Rudy Garcia, vu qu'on n'a pas entendu la première.
Je ne crois pas, franchement. Je ne crois pas. Je nous ai trouvés bien. Je nous ai trouvés en jambes, tous. Donc, je me demande si on n'était pas mieux qu'eux sur ce plan-là. Et donc, du coup, ça, c'est... Non, c'est dû au fait qu'ils aient pressé plus haut, qu'ils aient changé de système de jeu, qu'ils aient densifié le milieu. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, en deuxième période, on a eu les meilleures occasions. Voilà, après, on n'a pas été récompensé parce qu'il y a eu des décisions contraires qu'on respecte. Mais on n'est pas chanceux sur ces coups-là, on va dire comme ça.
Comment ? Voilà, bon, après, il a gagné le match. Je sais pas, encore une réponse, les gars ?
Ouais.
On va dire que la seule chose dont je m'interroge, c'est s'il y avait hors-jeu, pourquoi Moussa Dembélé prend un jaune, mais c'est tout. Par ça, le reste.
Parce qu'il a simulé un pénalty, selon l'arbitre.
Oui, selon l'arbitre, qu'il n'a pas simulé.
Voilà.
Ouais, il faudra que ce soit trop.
Voilà, merci Rudy Garcia. Allez, on va conclure sur Saint-Etienne avec Jérémy qui est là. Salut Jérémy.
Salut.
Jérémy, toi, t'as vu des trucs positifs?
J'ai mis du temps à avoir des trucs positifs.
Ah, moi je croyais, parce qu'on m'a dit, Jérémy a vu du positif.
Ouais, non, en fait, j'ai regardé ce match avec attention. Et en fait, je voulais passer un petit coup de fil pour faire un coup de gueule sur Saint-Té. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le soir, en fait, à faire un coup de gueule, parce que perdre 2-0 contre Lyon ce soir, finalement, c'était pas ce qui arrive de plus mal à Saint-Etienne. Parce que voilà, Saint-Etienne, ça fait 8 matchs sur 10 maintenant qu'on gagne plus. Et je vais profiter un peu de l'analyse de Daniel. Et l'expérience de Pierre pour essayer ensemble de voir ce qu'on peut faire sur ce club de Saint-Etienne. Comment on peut aujourd'hui s'en sortir quand on voit que on perd, j'ai rien contre ces clubs-là, mais contre des Metz, contre des Angers, qu'on se fait rattraper à domicile alors qu'on joue le maintien contre Reims à la 94e. Que les cadres sont apparemment, je suis pas dans le vestiaire bien évidemment, mais contre le coach, qu'un agent se permet de l'ouvrir dans les médias. Comment on peut sauver ce club aujourd'hui avec l'analyse de Daniel et l'expérience de Pierre.
Moi finalement, si je peux me permettre de commencer, ta première question qui est comment est-ce possible de perdre contre, je sais plus, tu as cité Brest, Angers, Reims, etc. Finalement, t'as la réponse dans tes questions d'après. Les problèmes avec tes joueurs dans le vestiaire, les problèmes avec ton coach, les problèmes du club, etc. Les équipes que tu as citées juste avant sont des très très bons exemples d'équipes qui ont sûrement moins de talent que dans votre équipe, et encore que peut-être pas, mais qu'ont surtout quelque chose, c'est que ce sont des clubs qui sont structurés convenablement, des vestiaires qui sont relativement sains, et où il se passe des choses dans ces groupes-là. Et tu peux pour ça citer l'état d'esprit d'Angers, de Brest et de Reims qui plus est, mais en plus avec des choses qui sont cohérentes tactiquement sur le terrain. On aime ou on n'aime pas après le type de jeu, ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est tout ce que tu n'as pas aujourd'hui à Saint-Etienne finalement. Tu n'as aucune cohérence sur le tactique sur le terrain. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Tu n'as aucun état d'esprit de groupe. On n'a jamais senti, même quand ça commençait à aller mal pour Saint-Etienne, quelque chose d'un peu, un état d'esprit d'un peu revanchard ou un groupe qui se souderait, même à la limite dans l'adversité, c'est-à-dire ou dans le refus d'un nouveau coach qui arriverait comme Puel avec ses idées. T'aurais pu avoir un groupe qui se fédère et qui se ligue un peu contre le coach, mais qui du coup fait un peu ce qu'il veut et réagit. T'as même pas eu ça. Donc t'en es là où tu dois en être finalement.
Bon, quant à l'analyse de Daniel, il l'a déjà donné il y a quelques minutes, je pense. On va donc passer à la suite. Jérémy, merci en tout cas.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.